Frères et sœurs, chaque fois que je lis ou que j'entends ces textes des noces de Cana, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite distraction et des pensées à cette histoire amusante de cet enfant qui rentre du caté mercredi après-midi et qui dit à sa maman, « Maman, tu sais, maintenant j'aime beaucoup la parole de Dieu. Toi et moi, on ne se parlera qu'avec des phrases de la Bible. » Ah bon, d'accord, très bien, bah écoute, j'accepte le défi. Donc le lendemain, jour d'école, sa maman va le réveiller. Donc elle frappe à la porte de sa chambre, toc, toc, toc. Et donc il entend de l'intérieur de la chambre quelqu'un qui dit « Femme, que me veux-tu ?» Et la maman dit « Qu'est-ce que je vais répondre ?»« Ah je sais, j'ai trouvé. Lève-toi et marche !» Et de l'intérieur de la chambre, on entend la voix « Mon heure n'est pas encore arrivée. » Au-delà de l'histoire amusante, l'évangile de ce deuxième dimanche du temps ordinaire a deux messages, à mon avis, importants pour nous. Notez que c'est le seul dimanche du temps ordinaire où nous allons lire l'évangile selon saint Jean. Mais il y a un lien très fort entre l'évangile du premier dimanche, selon saint Luc, et ces textes de saint Jean. Dimanche dernier, saint Luc nous a montré clairement la différence entre le baptême de Jean et celui de Jésus, entre le baptême d'eau de l'ancienne alliance et le baptême du feu et d'Esprit Saint de la nouvelle alliance, le baptême que Jésus est venu nous apporter. La première alliance annonce et prépare la deuxième. La deuxième porte à sa plénitude la première. Ce dimanche, dans un contexte et avec un langage d'un festin des noces, saint Jean nous livre le même message. La première lecture nous a déjà préparé, puisque nous avons entendu dans cette première lecture cette relation des dieux comme l'époux de son peuple. Il veut établir une alliance avec Israël, mais Dieu attend son heure pour établir cette alliance. Chez saint Luc, Jésus attend son baptême, et son vrai baptême est sa mort rédemptrice sur la croix. Chez saint Jean, Jésus attend son heure, celle de sa gloire, qui se manifestera par l'élévation sur la croix, par sa résurrection et l'effusion de l'Esprit Saint. Donc, et vous voyez, dans deux contextes un peu différents, on parle de la même chose. Jésus, dans l'évangile de saint Luc, attend la manifestation de sa gloire. Et sa gloire va se manifester quand son cœur transpercé par la lance va nous dire « Regarde, mon cœur est ouvert, je donne toute ma vie, je donne tout mon amour. » Et dans l'évangile de saint Jean, Jésus attend l'heure, son heure, et son heure c'est justement celle de la manifestation de l'amour immense qu'il a pour chacun d'entre nous et qui se manifeste sur la croix. Frères et sœurs, la croix n'est plus un signe maudit comme on le voyait dans les temps des Romains. La croix est un signe de vie, de cette vie que Dieu nous donne au moment où son heure est arrivée. Par sa mort, Jésus a épousé toute l'humanité. Par le baptême, il est devenu l'époux de notre âme. Par l'effusion de l'Esprit Saint, il répand son amour dans nos cœurs pour que, à notre tour, nous soyons capables d'aimer comme il aime. Tous les sacrements ne font que déployer dans le temps l'acte unique d'amour des dieux pour l'humanité. Vous savez, c'est les sept sacrements de l'Église qui nous connectent à cette grâce, à cet amour immense qui nous est donné sur la croix. Tous les sacrements ne font que nous rapprocher de la source unique de l'amour de Jésus, son cœur transpercé sur la croix. À Rome, quand vous allez dans les églises, vous trouvez toujours cette image de la croix, et puis de la croix, il y a de l'eau qui coule, et après cette eau va vraiment se répandre partout. Quand on le voit par exemple la basilique de Saint-Clément, c'est l'eau qui sort de la croix, c'est fleuve d'eau vive qui va porter la vie dans tous les autres domaines de la vie des hommes. Tous les sacrements ne font que manifester la vie nouvelle que Jésus nous a donnée par sa résurrection. Et saint Paul a bien raison de regarder vers Jésus pour montrer au couple chrétien par exemple la vraie mesure de l'amour. Quand il dit à Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église pour elle et l'a donné sa vie. l'eau pour les purifications contenue dans les jarres, symbole du baptême de l'ancienne alliance, se transforme en vent de la parole par la parole du Christ. Dans la nouvelle alliance, ces vins, par les paroles du Christ, à la dernière scène, se transforme dans le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, pour la rémission des péchés. Ici à la messe, nous sommes les témoins de cette nouvelle alliance où Jésus, l'époux de l'Église, s'offre pour elle sur l'autel lorsque le prêtre prononce les paroles des consécrations. Vous l'avez compris, frères et sœurs, on vit en quelque sorte à la messe ce que on a vécu aux noces de Cana, mais encore plus développé, parce que c'est pas simplement de l'eau qui va être transformée en vin, mais c'est vraiment le vin qui va être transformé par la force du Christ dans le sang qui nous donne une vie nouvelle. Heureux vous les invités au festin des noces de l'agneau. On va dire ça tout à l'heure au moment de la communion. Pensez qu'on est à Cana et que nous goûtons, voilà, à cette vie nouvelle que Dieu nous donne. Nous allons recevoir dans quelques instants la vie de Dieu lui-même. Nous allons être divinisés. Nous sommes les enfants de la nouvelle alliance, comme nous expliquons souvent aux catéchumènes. Vous savez, cette semaine, on avait une préparation avec les catéchumènes et ils posent des questions qui te dérangent, qui nous sortent de notre confort. On commentait un texte, le texte où le prophète Nathan va visiter le roi David. Et le prophète Nathan, lui, bon, vous savez, vous connaissez l'histoire, il raconte cette histoire. David, je vais te raconter une histoire. Un homme avait beaucoup de vraies vies, et puis un jour, il y a un ami qui vient chez lui, et il va plutôt prendre la vraie vie de la personne pauvre qui n'a plus rien. Et David se fâche, il dit, mais c'est quoi cet homme riche, il n'a pas le droit. Il dit, David, cet homme, c'est toi. Et après, le prophète Nathan va lui annoncer que son fils va mourir suite à son péché. Et là, il y a les catéchumènes, en lisant ces textes, qui disent, oh là, Dieu annonce la mort d'un enfant. C'est terrible. Et puis toi, avec l'équipe des catéchumènes, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il répond, voilà, dans ces textes. Et en réalité, frères et sœurs, nous sommes des enfants de la nouvelle alliance. C'est-à-dire que l'Ancien Testament ne s'arrête pas à l'annonce du prophète. Nous lisons toute l'écriture à la lumière de la résurrection. Donc, ce n'est pas l'annonce d'une mort, mais l'annonce d'une vie nouvelle et de toute l'humanité, rachetée par la vie nouvelle qui nous est donnée dans le Christ. L'heure de Jésus n'était pas venue, mais sa mère, Marie, provoque une manifestation de sa puissance. C'est Marie qui nous conduit à Jésus. C'est elle qui provoque la manifestation de Jésus dans les différentes circonstances de la vie. C'est elle qui intercède pour nous. Tournons-nous vers notre Mère du Ciel, Marie, Notre-Dame de Boulogne, et nous a laissé un seul commandement. Moi, j'aime beaucoup ces textes, parce que, vous voyez, parfois on peut se dire, bon, mais quelle est la place vraiment des Maries dans notre vie, et dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec le Christ. Le Christ nous a laissé un commandement. Dans l'Ancien Testament, nous avons 10 commandements, frères et sœurs. Marie nous a laissé un seul commandement. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Vous comprenez, Marie, elle est toute tournée vers le Christ. Et son seul désir, c'est de nous conduire à lui. Marie n'est pas sans détour dans notre chemin vers le ciel, vers le Christ. Marie est un raccourci vers son Fils. Je termine en vous partageant une belle prière de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, cet homme qui aimait profondément la Vierge Marie et qui a compris très bien ces liens qui unissent le Fils et la Mère. Il écrit, « Vous êtes, Seigneur, toujours avec Marie, et Marie est toujours avec vous, et ne peut être sans vous. Autrement, elle cesserait d'être ce qu'elle est. Elle est tellement transformée en vous par la grâce qu'elle ne vit plus, qu'elle n'est plus. C'est vous seul, mon Jésus, qui vivez et régnez en elle, plus parfaitement que en tous les anges et tous les bienheureux. » Demandons au Seigneur, encore dans ces débuts d'année, de vraiment découvrir la place importante qu'il y a Marie dans nos vies et que par son intercession, nos vies, l'Église et la vie du monde soient transformées. Elle a été toujours très présente dans les moments difficiles de l'histoire de l'Église, elle a été toujours présente quand nous l'invoquons, qu'ici, dans cette Église, au sanctuaire diocésain de Notre-Dame de Boulogne, nous puissions continuer à l'invoquer avec la même confiance avec laquelle on s'est tourné vers elle au moment des noces de Cana. Amen.